Bienvenue dans le premier épisode de Banquette, on avait hâte que ça commence. Pardon, excusez-moi, je manque à tous mes devoirs. Je m'appelle Selim Halal et je suis présentateur de Banquette depuis peu. Bonjour Selim ! Aujourd'hui, on reçoit l'un des plus grands journalistes du football français et pour cet épisode inaugural, je vais vous demander deux petites choses. Alors la première, c'est de la bienveillance. Cet enregistrement n'est pas parfait, on en est conscient. Il faut savoir qu'on n'enregistre jamais Banquette dans un studio de radio avec des techniciens autour, mais chez notre invité, dans son canapé ou sur son lieu de travail, à la cool, là où il se sent le plus à l'aise. Pour cet épisode, nous étions dans les bureaux du grand quotidien sportif français, et malgré la salle insonorisée, nous n'avions pas anticipé les pas des autres journalistes dans le couloir. Il faut croire que notre conversation était tellement intéressante qu'ils venaient tous écouter aux portes. Sachez par contre que depuis, nous avons réglé ce problème et les prochains épisodes seront parfaits ou presque. J'en profite d'ailleurs pour souligner que cet épisode inaugural de Banquette est rendu possible grâce au soutien de Blue Microphones. Cette gentille entreprise américaine fabrique les produits que Banquette utilise pour toutes les interviews, dont le superbe casque MoFi, qui une fois sur les oreilles coupe entièrement du monde autour de soi. Ce qui est idéal pour regarder un match avec des footix, et vous en connaissez forcément. Bref, merci à Blue Mic de soutenir Banquette dès son lancement. La deuxième chose que j'aimerais avoir, c'est vos avis. On commence, on teste des choses, parfois on se trompe. Alors dites-nous ce que vous pensez de Banquette sur Twitter, Instagram ou Facebook, et c'est promis, on vous écoutera. Ah, et passez aussi, surtout, vous inscrire à la newsletter sur www.nouvellesécoutes.fr, nouvelles écoutes au pluriel. Allez, épisode 1 de Banquette, on y va, on balance le générique.
Régalez-vous. De la chaussure. On reste dans le cadre d'une finale où je n'en veux plus. C'est clair.
Voilà. Non, je n'ai pas touché.
C'est déjà
non.
Aujourd'hui, je suis en compagnie d'un journaliste sportif, d'un auteur de talent et d'un chroniqueur brillant sur l'équipe. Alors non, je parle pas de moi, vu que je peux pas être en compagnie de moi-même, forcément, mais de Vincent Duluc, l'un des poids lourds du groupe, et ça n'a strictement rien à voir avec son coup de fourchette, je vous vois venir, donc commencez pas. Passé par le centre de formation lyonnais Le Progrès, Vincent est leader de la rubrique foot au journal L'Équipe et la plus fameuse plume du journal. Il est capable de nous raconter un match comme personne, en usant de mots trop peu utilisés dans le sport et en enchaînant les parfaites images et comparaisons pour nous faire rentrer dans l'histoire. Vincent n'utilise pas sa plume que pour faire des comptes rendus ou des avant-matchs, c'est aussi un prolifique auteur qui a écrit ou coécrit une vingtaine de livres, qui vont de l'histoire de l'Olympique lyonnais à George Best, en passant par l'affaire Jacquet ou un focus sur les meilleurs managers du monde du foot. Décidément boulimique, de travail, arrêtez avec ça, c'est bon, c'est pas marrant. Donc décidément boulimique, il se balade aussi sur les plateaux de télé ou de radio, et si vous aimez les talk shows de sport, vous l'avez forcément vu sur 100% foot ou l'équipe du soir, et entendu sur « On refait le match !» Pardon, excusez-moi, je passe qui m'a pris, désolé. Enfant de l'Ain et de Bourg-en-Bresse, Vincent a depuis visité la grande majorité des stades européens, voire du monde, pour sustenter, pas mal ça comme mot Vincent, non ? Sa passion dévorante pour le football. Quand il ne regarde pas 50 matchs qui vont de la Ligue des Champions à la CFA2, il aime jouer au golf avec ses amis sur ses terres natales. Bon, le golf, c'est le sport par excellence de ceux qui n'en font pas, mais qui disent en faire. En bref, si vous souhaitez mieux connaître le meilleur ennemi de Jean-Michel Aulas et autres Samir Nasri, je vous invite, après l'écoute de ce podcast bien entendu, à aller dévorer Un printemps 76, son récit autobiographique autour de l'épopée des Verts. Bon, et tous les autres aussi, ça vous fera pas de mal. Alors Vincent, déjà pour commencer, est-ce que cette petite présentation te va ? Est-ce qu'il y a des choses qui te plaisent pas ou il y a des choses qui te plaisent ?
Il y a une chose qui m'insupporte.
Dis-moi.
C'est quand on dit Bourg-en-Bresse. On dit Bourg.
Bourg-en-Bresse.
Bourg-en-Bresse. Quand il y a une voyelle après le G dans une autre ville, on dit Bourg. C'est un truc important quand même. On est en Bourg-en-Bresse, on est dans le 0000. Voilà, il y a des choses importantes dans la vie. Et ça, c'est important.
Mais je te jure qu'en plus, je me suis dit, comment on le dit ? Vraiment. Et j'ai regardé et j'ai oublié. Je suis désolé. Pardon.
Bon, ça va autrement.
Je me flagellerai après. Bon, on va commencer par la base, parce que c'est comme ça en général que je commence. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est d'où vient cet attrait, voire même cet amour passionnel pour le foot ?
Ça vient peut-être de mon père qui ramenait l'équipe et Football Magazine à la maison, qui allait à Geoffroy Guichard quand il était petit. Il y a sans doute quelque chose comme ça. Ça vient sûrement d'une manière ou d'une autre, du moment où j'ai envisagé le foot comme une fuite possible, un échappatoire possible, une liberté envisageable. Et que je pense que j'ai trouvé très tôt que c'était mieux que l'école et mieux que tout le reste. C'est vrai que j'ai toujours adoré ça, que j'ai lu l'équipe, je sais pas, à 6 ou 7 ans, quoi. Je lisais déjà l'équipe, Football Magazine, j'étais abonné, j'avais 7 ans, 8 ans, ouais. C'était le mensuel fait par l'équipe d'ailleurs à l'époque, par les mêmes journalistes de l'équipe et de France Football en fait. Donc voilà, j'ai toujours lu la presse sportive, j'ai toujours adoré ça. J'ai attendu très longtemps avant de voir des matchs dans des grands stades. Quand j'étais jeune, j'allais au FC Bourg-Péronnat qui jouait en division d'honneur, ou même des fois en dessous, en division d'honneur régionale. Et aujourd'hui, je tiens à rappeler que nous sommes en Ligue 2, que nous appelons Bourg-en-Bresse, et que nous vivons l'extraordinaire aventure d'une deuxième saison professionnelle. Voilà. Donc voilà, c'est une enfance banale, c'est une enfance à aimer le foot de loin, à voir 7 ou 8 matchs par an à la télé, et plutôt en noir et blanc, et à vivre le foot à travers les journaux, puisqu'effectivement, je le voyais dans le stade de ma ville vraiment, en dehors des matchs de division d'honneur régionale, genre des matchs immenses entre Bourg-Péronnat et Saint-Chamond, des trucs comme ça, quoi. Et ni à la télé, voilà, ni dans la vraie vie, donc forcément à travers les journaux. Donc du coup, pour moi, l'attrait du foot et de la presse est intimement lié.
Mais justement, tu disais que tu vivais ça de loin, parce que tu n'as jamais réellement pratiqué le foot.
J'ai joué à Bourg-Péronnat. J'ai joué en cadet de ligue, j'ai joué en équipe réserve à Péronnat, j'ai arrêté quand j'avais 17 ans parce que je voulais bosser au Pro et que j'étais déjà pigiste. J'étais gardien. Quand j'ai joué dans des équipes de la presse qui avaient un très très haut niveau. Pendant l'Euro 92, j'avais Wenger libéraux et milieu de terrain, c'était Larquet, Tigana et Gires. Donc c'est dire.
C'est pas mal, il y a Pierre comme équipe. En face ou avec toi?
Non, avec moi. Larquet me prenait toujours dans son équipe. C'était ma grande fierté de ces années-là. Parce que c'est quand même quelqu'un qui aime personne, donc j'étais quand même content qu'il m'aime bien. J'ai joué, mais de toute façon, d'avoir joué, ça m'a absolument rien appris du foot.
Ah mais ça, on est d'accord, mais c'est vrai que c'est un reproche qu'on fait souvent aux journalistes sportifs.
C'est un reproche vain. Est-ce qu'on reproche, comme dirait mon ami Pierre-Michel Bonneau au rugby, est-ce qu'on reproche à quelqu'un qui écrit sur le French Cancan de ne pas avoir une plume dans le cul?
Mais ça, on est d'accord.
Non,
ça,
c'est pas indispensable. Il y a quand même moyen de le faire autrement.
On est bien d'accord.
Mais je reviens un peu sur. C'est un reproche fondamental et trop souvent, y compris dans les émissions à l'équipe 21, il y a des anciens joueurs qui nous disent non, mais il faut avoir joué pour comprendre. Moi, j'ai joué. Mais j'ai vu tellement de joueurs qui n'ont jamais rien compris à ce qu'ils faisaient. Comme si c'était un argument. Ça ne peut pas être un argument. Il y a des joueurs qui ont joué, qui n'ont jamais réfléchi de leur vie.
Oui.
Donc pour moi, ce n'est pas un argument. Si c'était un argument, Mourinho ne pourrait pas parler de foot parce que de toute façon, il était absolument nul comme joueur. Mais on s'en fout que Mourinho soit nul comme joueur puisqu'il est bon comme entraîneur. Donc de la même manière, on s'en fout qu'un journaliste ait joué ou pas joué. Ce qui compte, c'est est-ce que c'est un bon journaliste? Est-ce qu'il est pertinent? Est-ce qu'il sait écrire? Est-ce que ce qu'il dit est à peu près sensé? Avoir joué ou pas joué, franchement, c'est juste une espèce de protectionnisme à deux francs, et en plus c'est plutôt actionné par ceux qui n'ont pas beaucoup d'armes après leur carrière que par ceux qui ont beaucoup d'armes.
Ah, mais en général, on se rappelle de Pierre Ménès qui s'est fait tacler un petit peu par Patrice Evra en lui disant voilà, tu sais même pas faire Dijon, que t'as jamais joué au foot, fais-les, et quand tu feras Dijon, en gros, ça y est, tu pourras parler de foot avec moi. Comme si le fait de ne pas avoir joué en première division ou deuxième division, enfin un passé pro voire semi-pro, ne permettait pas d'avoir un œil aiguisé sur le foot.
Mais c'est ridicule. Moi, je vais dire à Patrice Evra, fais une dictée, et après, tu pourras critiquer mes papiers. Mais c'est ridicule. Je ferai pas ça. C'est complètement stupide. Il a le droit de critiquer mes papiers. Le simple fait qu'il soit joueur et qu'il lise le journal, lui donne le droit de critiquer mes papiers, même s'il faisait 5 fautes au mot, ce qui est pas avéré, d'ailleurs. Et puis, qui n'a aucune importance. On s'en fiche. Ça compte pas. De la même manière, ça compte pas qu'on sache faire Dijon ou pas Dijon. En plus, Dijon, tout le monde sait les faire.
Pas sûr. Il y a 2-3 joueurs à Monaco, je suis pas persuadé qu'il les fasse.
C'est ça.
Un certain Assila Traoré, par exemple, je suis pas persuadé. À part, donc, Bourg, Péronnat.
Bourg,
pardon.
Décidément.
Je vais partir, en fait. Est-ce que t'as suivi ou t'as aimé suivre une équipe dans ton enfance-adolescence?
Moi, mon problème, c'est que je voyais pas beaucoup de matchs, mais quand j'en voyais un, je prenais des grosses gifles, quoi. Quand j'avais 10 ans, j'étais en Angleterre avec mes parents et ils m'ont emmené voir Arsenal Wolverhampton à Pâques 1972 à Highbury. Donc à 9 ans, je suis rentré dans Highbury et j'ai pris ça dans la gueule. Donc forcément, ça inocule un virus qui peut pas partir, qui reste. Et le premier match de ma vie que j'ai vu à Saint-Etienne, c'est le Saint-Etienne-Kiev du 17 mars 1976, le fameux 3-0. Il y avait un voyage avec le lycée et tout. Et puis Saint-Etienne a été un objet d'évasion fantastique par rapport à l'ennui provincial d'une adolescence du milieu des années 70. Les dernières générations ne peuvent pas imaginer ce qu'était l'ennui de ces années-là, à avoir Zorro, Flipper ou Skippy le Kangourou le mercredi après-midi à la télé, mais jamais les trois en même temps, c'est seulement un des trois. D'avoir la piste aux étoiles avec Roger Lanzac sur l'ORTF. Et oui, 7 matchs par an et rien du tout. Et dès qu'il y avait un match à la télé, on l'attendait pendant un mois. Donc voilà, tout ce qui pouvait un peu donner un peu de vie à nos milieux de semaine, ouais, on prenait.
Donc t'étais plus fan vraiment du foot que supporter d'une équipe en particulier, en soi.
Ouais, sans doute. Mais d'ailleurs, ça m'est un peu resté aujourd'hui. J'ai des affections qui peuvent reposer soit sur des hommes, des joueurs que je connais et que j'aime bien, des entraîneurs que je connais et j'aime bien, soit sur une manière de jouer, soit sur... Après, il y a quand même un fil rouge. Il y a des équipes que j'aime mieux que d'autres, bien sûr. En plus, franchement, quand on est passionné de foot, on ne peut pas ne pas prendre parti. Je ne crois pas un seul instant qu'on puisse prendre le moins de plaisir dans ce jeu si on est complètement neutre. Si on a pas, qu'on puisse être transporté par un match si on n'a pas envie qu'il y ait une des deux équipes qui gagne plutôt que l'autre. Donc, à chaque match, j'ai beaucoup plus envie qu'une équipe gagne que l'autre.
Ce que je voulais te demander, justement, parce que c'est vrai qu'on dit que le journaliste doit être vraiment très neutre et très objectif. Dans notre métier, c'est quand même particulier, puisque forcément, on a tous été supporters à un moment d'un joueur, d'un club, quelque chose, avant de devenir journaliste. Et je sais pas, je me dis des fois, est-ce que c'est pas plus compliqué, par exemple, de commenter une équipe ou un joueur qu'on aime? Est-ce qu'on va pas faire exprès de le descendre pour paraître justement plus neutre et plus objectif?
En fait, on s'en fout un peu d'être objectif. Très franchement, c'est pas gênant. Ce qui compte, c'est d'être honnête. Ce qui compte, c'est de raconter ce qui se passe, de dire voilà comment le rapport de force a évolué, pourquoi il s'est passé ci, pourquoi il s'est passé ça, pourquoi l'équipe a été faible. Et quand on traite une équipe qu'on aime beaucoup, le danger, c'est pas du tout le chauvinisme, le danger, c'est le dépit amoureux. Il n'y a rien de pire que le dépit amoureux. Il n'y a rien de pire que le côté, c'est vraiment tous des nuls, c'est scandaleux, ils n'auraient jamais dû perdre. Ça, c'est affreux, ça, c'est pas du tout journalistique. En revanche, on peut avoir des vraies convictions, mais des convictions de jeu. C'est-à-dire qu'on peut estimer, même si moi, l'Atlético Madrid ne me choque pas plus que ça, je comprends tout à fait qu'on puisse journalistiquement détester l'Atlético et dire que c'est une vision complètement inesthétique du foot et que Simeone est un fossoyeur du jeu. C'est pas mon avis. Mais je pense que ça peut être journalistique de le dire. C'est un parti pris qui est tout à fait respectable.
Mais cette idée-là, c'est quelque chose que tu as acquis à travers le temps ou tu étais déjà comme ça au progrès quand tu as commencé?
C'est différent parce que quand on travaille dans la PQR, dans la presse quotidienne régionale, quand on travaille dans la PQR, moi j'ai commencé dans le département de l'Ain, puis après effectivement je suis allé à Lyon, donc dans le Rhône. Il y a une proximité qui fait qu'il y a quand même des intérêts convergents, objectifs. C'est-à-dire qu'effectivement, quand moi je suivais l'Union Sportive Bressane en rugby, ben j'avais intérêt à ce que le club remonte en groupe A en première division de rugby. Parce que j'allais faire des super déplacements, on allait voir des beaux matchs et papy allait être sympa. Quand j'ai commencé à suivre l'OL à partir de 1987 pour le Progrès, ben j'avais d'abord intérêt à ce que l'OL remonte en première division. Parce que quand même, ça allait être beaucoup plus sympa. Et après, j'ai eu intérêt à ce que l'OL joue en Coupe d'Europe, bien sûr. C'était un plaisir qui était lié d'abord au boulot, parce que mon boulot allait être plus intéressant, parce que l'OL gagnait, et puis c'était lié après à l'attachement qu'on peut avoir, à l'attachement quasi feuilletonesque. Voilà, moi j'ai toujours vu Lyon, par exemple mon rapport à Lyon, j'ai toujours vu Lyon comme une espèce de série, quoi. Moi c'est le club que j'ai le plus suivi, même si j'aimais beaucoup Saint-Etienne quand j'étais ado, mais aujourd'hui j'envisage Lyon comme une série. C'est saison 23, épisode 17, chaque nouvelle journée apporte quelque chose. Je pense que pour les femmes, c'est comme le feu de l'amour, en fait. Elles savent toujours où elles en sont. Ben moi, sur l'OL, c'est pareil, je sais toujours où j'en suis.
Mais qui est Victor Newman, du coup, à l'OL?
Je connais pas Victor Newman, en fait.
Je vais confesser un truc, je regardais avec ma grand-mère quand j'étais petit, j'ai l'impression qu'en fait, tous les acteurs d'il y a 20 ans sont les mêmes que
ceux de maintenant. Alors c'est Bernard Lacombe.
Ça peut coller, c'est pas bête.
C'est forcément Bernard Lacombe.
Je sais pas
Victor
si
Newman
macho,
et Bernard Lacombe. S'il est macho?
Non, Bernard Lacombe, oui, justement. je me dis, je sais pas si Victor Newman est macho dans le truc. Après, je crois qu'il se marie avec tout le monde dans la série, donc ouais, ça peut coller.
Ah non, mais Bernard Lacombe, il est toujours marié avec la même femme, mais en revanche, il s'est marié avec beaucoup d'entraîneurs depuis, ça c'est vrai. Et il divorce souvent.
Et on parlait du Progrès avant. Comment est-ce que tu es arrivé à l'équipe? C'est toi qui as postulé ou tu as été démarché parce que quelqu'un de l'équipe a trouvé que ce que tu faisais était bien?
J'arrive à l'équipe parce que j'ai toujours voulu bosser à l'équipe. Quand on apprend à lire dans l'équipe, on a envie d'y travailler un jour. Alors après, c'est un rêve ou une ambition que j'ai reporté parfois. J'avais failli venir à la fin des années 80, et puis après j'ai mis un peu en parenthèse, parce qu'à Lyon je faisais tout, je faisais l'OL, je faisais les Jeux Olympiques, je faisais les Coupes du Monde. Repartir. En 92, j'ai fait les Jeux de Barcelone, les Jeux d'Albertville, j'ai fait l'Euro en Suède, je faisais l'OL, je faisais l'athlée, j'allais pas trouver mieux ailleurs, c'était parfait. J'avais même pas 30 ans, j'étais vraiment super bien. Puis au bout d'un moment, on se dit, bon, allez, on commence à avoir fait le tour, peut-être qu'il va... Et puis j'ai toujours... Franchement, il n'y a pas beaucoup de mois dans ce boulot qui soit passé sans que je me dise, il faut vraiment que j'aille à l'équipe un jour. Alors évidemment, quand on est dans la PQR, quand on fait autant de grands événements comme ça, donc on fera des étoiles, ça te dirait que, bah ouais, ça me dirait. Et puis à un moment, parfois c'est eux qui sont demandeurs, parfois c'est toi. Et puis à un moment, tout le monde est demandeur au même moment et ça colle, voilà. C'est à peu près ça l'histoire.
Mais tu as évolué quand même très très vite à l'équipe, parce que tu arrives en 95,
ouais.
Donc 3 ans avant la Coupe du Monde, et au final, tu suis quand même rapidement, tu fais partie du carré magique, on va dire un petit peu. Qui suit la Coupe du Monde avec Patrick Urbini, Jérôme Bureau et Gérard Vagenès.
Ouais, absolument.
C'est rapide quand même pour un journal comme l'Équipe.
C'est rapide à l'Équipe, mais quand j'arrive à l'Équipe, je suis déjà journaliste professionnel depuis 13 ans. Quoi. C'est-à-dire que je suis jeune parce que j'arrive à l'Équipe, j'ai 32 ans, mais j'ai quasi 13 ans de carte de presse derrière moi. Ça fait 13 ans que j'écris tous les jours. Donc oui, ça a été rapide, mais je pense que ça a été rapide parce que c'était plus important pour moi que pour les autres.
T'avais plus faim que les autres.
Ouais, je crois, j'ai un peu plus envie. Il y a beaucoup de gens qui avaient connu que l'Équipe à l'époque, et les gens qui avaient connu que l'Équipe, ils avaient connu que le meilleur, et je pense qu'ils avaient un peu moins faim. Moi, j'avais connu ailleurs, je voyais la différence. Je venais d'un journal où des fois, il fallait râler pour aller à Montceau-les-Mines, quoi. Et là, tout d'un coup, on me dit, tiens, au fait, tu vas aller à Amsterdam, tu vas rester une semaine, tu vas faire 2 matchs de l'Ajax. Non, c'est pas vrai. Il faut que je paye quelque chose ou non? Donc, ouais, forcément, t'es complètement attiré là-dedans. Et mine de rien, même si j'étais jeune, j'avais tellement écrit que je pense que c'était le bon moment pour moi, quoi. J'étais mûr, en fait. En fait, j'étais mûr, et puis ça a collé assez vite. C'est vrai que je suis devenu leader du foot au bout d'un an ou deux seulement, quoi. J'ai dû faire les chapeaux. J'ai fait les chapeaux de l'équipe de France au bout de ce qu'on appelle nous les chapeaux, les comptes rendus, les papiers principaux, au bout d'un an et demi sans doute, quoi, juste après l'Euro 2016. Jusqu'à après l'Euro 96 d'Angleterre, ouais, c'est ça, au bout d'un an et demi.
Tu parlais de différence entre le progrès et l'équipe. Justement, avec l'étiquette l'équipe, est-ce que tu as senti un changement de comportement?
Mais quand tu arrives à l'équipe, dès que tu écris 5 lignes, les 5 premières lignes, déjà, boum, tu sens le truc. Tu reçois un coup de fil, il y a un truc, tout change. Tout change. Tu veux faire un papier sur un joueur, tu appelles un entraîneur dans son bureau, tu dis bonjour, je voudrais parler à un tel joueur, parce qu'à l'époque, il n'y a pas les portables au milieu des années 90. Et l'entraîneur de D1, il te dit bah, ah oui, j'ai vu votre nom dans le journal l'autre jour, vous êtes là depuis longtemps. Bon, vous voulez le joueur à quelle heure? Je sais pas, 12h30, ça serait bien. Je vous l'amène dans mon bureau, vous rappelez à ce numéro, etc. Donc en fait, voilà, toutes les portes s'ouvrent, tout change. Aujourd'hui, on est en 2016. La situation est beaucoup plus concurrentielle qu'elle était. Quand je suis arrivé à l'équipe en 95, on était dans une situation totalement monopolistique sur le foot. Il y avait Canal, c'est vrai, mais il n'y avait que Canal. Il n'y avait pas d'autres chaînes télé qui étaient vraiment dans le foot. Mmh. Il y avait un peu le radio périphérique, mais il n'y avait pas de site internet, il n'y avait pas de chaîne d'info. Personne d'autre que nous faisait de l'info et nous, on en faisait à peine. Donc c'était, ça n'avait rien à voir.
À la rigueur, il y avait des journaux comme 11 Mondial, etc., mais qui avaient des parutions beaucoup plus larges.
Oui, puis c'est pas sur l'info, quoi.
Oui.
Ils n'étaient pas tous les jours dans les clubs. Au milieu des années 90, même sans prévenir, t'étais l'équipe, t'arrivais à l'entraînement d'une équipe leader, n'importe le PSG, n'importe où. C'était porte ouverte. Tu t'installais dans le vestiaire, t'allais t'asseoir à côté des joueurs, puis tu disais, bon, qu'est-ce que je vais raconter aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais voir? Ah non, Rai, bon, pas Rai, parce qu'il était encore pas là. Si, il était déjà là. Oh non, lui. Oh lui, peut-être Alain Roche. Oh non, je crois que je lui ai parlé il y a 15 jours. Bon, allez, Gino. Allez, c'est parti pour Gino là. Mais c'était comme ça. Puis enfin, voilà, Auxerre était champion, a fait le doublé en 96. Mais à Auxerre, la semaine, on passait 9 heures dans le bureau de Giroud. Après, on allait dans le vestiaire, on allait voir les joueurs. Mais voilà, il y avait une proximité assez incroyable. Et le fait d'être à l'équipe, ouais, toutes les portes s'ouvraient. Je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile de travailler à l'équipe. Mais le truc qui est passionnant, quand on écrit, on est lu. Et il y a une grosse pression. Tout prend des proportions incroyables. Une année, je me suis engueulé avec Deschamps un peu après l'Euro 2000, au moment de sa retraite. Il était un peu aigre contre l'équipe, et moi j'étais un peu amer contre lui. Et il me reprochait un papier, je lui ai dit, mais attendez, il y avait 10 fois pire dans le Parisien sur toi. Et il m'avait dit, mais le Parisien, on s'en fout, nous. Tout ce qui compte, c'est l'équipe. Et ça, c'est un côté qui est vraiment sympa.
Petit rappel pour les auditeurs, l'histoire de Deschamps en 2000, c'est que avant l'Euro, apparemment, il y avait des petites tensions entre les joueurs et... Enfin, pas des tensions, mais certains joueurs commençaient à décrier un petit peu Didier Deschamps en disant qu'il était en dessous sportivement. Mmh. Et toi, ce que tu avais écrit, c'était que c'était plus qu'un joueur dans le groupe, qu'il était vraiment indispensable, même si Vieira était meilleur joueur.
Absolument.
Et il avait retenu que cette phrase-là.
Exactement. Le titre du papier, c'était Deschamps plus qu'un joueur. Et je disais, bah, effectivement, Vieira est devenu meilleur que lui, mais il faut que Deschamps joue, parce qu'il n'y a pas d'excès de bagages au plus haut niveau. Au contraire, c'est important, machin, etc.
Une autre chose plutôt qui intéresse particulièrement le public, et t'en parlais tout à l'heure, ce sont les notes attribuées aux joueurs. Donc il faut expliquer déjà que pour l'équipe, en tout cas, les notes, c'est une moyenne des journalistes qui sont présents dans le stade, qui font, par exemple, je sais pas, vous êtes 3, vous mettez un 6, un 7, un 6, il aura 6 dans la note dans le journal. Mais moi, il y a un truc que je comprends pas et que le public ne comprend pas, c'est comment on fait pour noter 22 joueurs en même temps. Est-ce qu'il faut être un cyborg pour travailler l'équipe?
Ben, c'est une bonne question, parce qu'en fait, on note quasiment jamais 22 joueurs. C'est-à-dire qu'effectivement, noter 22 joueurs, c'est impossible. Ça nous arrive. Il nous arrive d'être seul envoyé spéciaux sur un match de Ligue 1 et d'avoir 22 joueurs à noter. Alors là, très franchement, moi, quand ça m'arrive, ça va, je peux avoir des idées sur des tas de choses que j'ai vues. Mais 22, c'est impossible. Sur les 22, vous êtes sûr qu'il y en a 5 ou 6 dont vous n'avez aucune image, aucun souvenir, que vous n'avez pas vu. Ou alors que vous avez vu sur 2-3 images menteuses et que les 4 trucs vraiment importants du match, vous ne les avez pas vus. Donc en général, on est quand même plus 20 par match. Chacun fait une équipe, chacun se concentre sur une équipe. Moi, par exemple, si je suis en match de Lyon, je vais noter que Lyon. L'équipe adverse, je vais même pas... Quand on me demande mon avis, je vais dire un ou deux trucs. Mais je n'ai regardé qu'une équipe sur deux. Et Lyon, les 11, allez, on va tous se tromper, mais au moins j'aurai un avis argumenté. C'est-à-dire que j'ai vu ce qui s'est passé. Après, les critères de match réussi, match raté, est-ce que ça vaut la moyenne, pas la moyenne, c'est autre chose. Mais j'aurais vu. Donc 22, effectivement, c'est impossible. Si jamais je suis seul et que j'ai 22 à noter... Honnêtement, je demande à mes confrères de la PQR.
Il n'y a pas la petite technique du « allez, on met 6, match satisfaisant » pour un joueur qu'on n'a pas... Qui n'est ni bon ni mauvais, en fait.
On peut faire ça dans l'urgence. Mais si jamais on a 5 minutes pour décider, très franchement, je ne sais pas si c'est un match Lyon-Lens et qu'il y a la moitié des Lensois dont j'ai aucune idée qu'il faut que je note, eh ben, je vais aller voir mon copain Antoine Placer qui bosse à la Voix du Nord et qui suit Lens, et je lui dirai tout là, qu'est-ce que t'en as pensé de tes Lensois? Je vais pas le suivre à 100% parce que je serais peut-être pas d'accord, il y a des choses que j'aurais vues, etc. et tout. Mais au moins, voilà, j'aurais un avis complémentaire. Parce que ça serait malhonnête de noter effectivement 22 mecs en ayant vraiment une idée sur 13 ou 14 d'entre eux seulement.
Mais même en notant 11, comment on fait pour suivre un match dans sa globalité? Donc forcément, on regarde le ballon bouger, les équipes, les blocs, etc. Mais tout en se concentrant uniquement sur les 11 joueurs qu'on va noter.
C'est un exercice. Mais en fait, non, ouais, c'est pas tant que ça. Parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, moi j'ai un regard global. J'en parle des fois avec des entraîneurs qui effectivement ont un regard particulier. Moi j'ai un regard global. Donc, je peux dire pourquoi ça marche ce jour-ci, pourquoi le joueur est en dedans aujourd'hui, quelle relation technique ne fonctionne pas. Donc, non, je pense qu'honnêtement, sur les. C'est comme sur l'équipe de France, il y a des choses que je peux ne pas voir. Mais j'ai quand même une idée à peu près de 80% de ce qu'a fait le match. Quel est le coefficient pour un but? Quel est le coefficient pour une passe décisive dans la note? Après, ça rentre. Il y a des gens qui rajoutent systématiquement un point pour un but, un point pour une passe décisive. Ouais, on peut, mais chacun est un peu différent. Voilà.
Mais même si ce principe de notation plaît énormément au public et dans tous les pays, de toute façon, où il y a des journaux, est-ce qu'on n'accorde pas trop d'importance à cette notation-là, à la note qu'on a, par exemple, dans l'équipe? Est-ce que t'as pas des joueurs, déjà, qui sont venus pour se plaindre de...
Bah évidemment, mais ça c'est l'histoire. Évidemment. Au tout début, il y a 20 ans, quand on commençait à donner des notes, je me disais, mais c'est quand même injuste d'être jugé par les joueurs et par le milieu selon les notes qu'on donne, alors que c'est un exercice qui, pour moi, n'était pas journalistique. Tout le reste était journalistique, mais pas les notes. Mais c'est un combat d'arrière-garde et finalement ça fait partie du truc et il faut assumer ça. Donc oui, il y a des joueurs qui le prennent très mal, il y a des joueurs qui appellent, il y a des joueurs qui font la gueule, il y a des joueurs évidemment. Mais ça, c'est ça a toujours existé. C'est la seule chose, eux qui lisent vraiment dans le journal, et quand ils disent qu'ils lisent pas ce journal, qu'ils lisent pas les notes, c'est parfois vrai, mais c'est parce que quelqu'un les prévient tous les matins à 8h. Ah, l'enculé, t'as mis 5. Comment il a pu te mettre 5?
Mais est-ce que, à contrario, t'as des joueurs ou dirigeants qui sont très gentils avec toi, on va dire, pour avoir un bon papier ou avoir une bonne note, qui se disent, si je suis pote avec Vincent Duluc, qu'on a une bonne relation, ou je lui donne une info, il va peut-être être plus gentil avec moi dans la notation?
C'est... Non, mais il n'y a pas de raison que ce qui arrive dans toutes les vies professionnelles n'arriverait pas dans celle-là. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas des gens qui essaient d'amadouer ceux qui ont un petit pouvoir pour essayer d'en profiter. Donc oui, ça arrive forcément dans le foot. Honnêtement, je ne l'ai pas tellement vu. Et puis quand on le voit arriver tellement loin que ça ne touche pas beaucoup. La vraie, une des difficultés des notes, c'est de mettre des très mauvaises notes à des gens qu'on aime beaucoup. Ça, c'est pas facile. Et ça arrive. Il y a des joueurs qui sont des crèmes. Et moi, j'en mets des 3. Et ça fait mal au cœur de mettre des 3 à des crèmes. Et puis de mettre 6 ou 7 à des sales types, quoi. Mais ça, c'est le foot. C'est la vie. C'est comme ça. Mais c'est pas toujours facile. Mais de manière générale, les crèmes, d'ailleurs, vous en veulent pas. C'est toujours les sales types qui vous en veulent. Donc ça, c'est rassurant.
Non, mais c'est vrai que oui, les notes, vraiment, c'est devenu un truc très... très important, peut-être trop, puisque forcément des gens qui vont pas regarder, puisque personne ne regarde tous les matchs, même les journalistes sportifs peuvent pas regarder tous les matchs.
C'est quand même nous qui regardons le plus de matchs. Hein.
Oui, bien sûr.
Avec les entraîneurs. Hein.
Bien sûr.
Mais je veux dire, il suffit de voir les votes des joueurs pour savoir qu'ils ne regardent pas les matchs.
Non, le ballon d'or, etc., c'est n'importe quoi.
Ils savent même pas ce qui se passe dans le foot.
Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, sur une journée de Ligue 1, tu peux pas regarder les 10 matchs en entier. C'est pas possible.
Non.
Et il y a des joueurs qu'on voit jamais, mais dont on va avoir une image parce que les médias ont transmis cette image-là. Par exemple, je sais pas, il va y avoir des joueurs, on va se dire « Ah tiens, lui, il est technique », alors qu'on l'a jamais vu jouer, ou lui, il est bon, lui, il est pas bon. Et en général, c'est fait sur un ressenti de médias, de notes, etc.
Donc... Non, c'est pas la faute des médias, c'est la faute du système. C'est-à-dire que, mais je pense que c'était bien pire avant. C'est-à-dire qu'avant, il y avait un papier dans un journal ou un journaliste qui pouvait faire la carrière d'un joueur. Aujourd'hui, c'est pas possible. Aujourd'hui, si moi, à l'équipe, je veux faire croire que... Je sais pas, que Jean-Philippe Bamin, l'arrière droit de Lens et des espoirs, c'est le nouveau Dani Alves, ça marchera pas. Il y a 30 ans, ça aurait marché, j'en suis sûr. Je suis sûr qu'il y a 30 ans, ça aurait pu marcher. C'est-à-dire qu'il se fait que l'équipe dit quand même l'arrière droit de demain, il pouvait vivre 5 ans là-dessus, le mec, même s'il était mauvais pendant 5 ans. Aujourd'hui, il peut vivre quoi, 5 heures dessus. Dès le match suivant, les réseaux sociaux, les trucs, c'est. Il y a une espèce de police moderne qui fait que non, ça marcherait plus. On peut plus se permettre comme ça d'entretenir l'illusion autour d'un joueur ou d'avoir des élans affectifs sur un joueur. C'est pas possible. Aujourd'hui, on doit être, mais on l'est d'ailleurs, on doit être rigoureux et on doit être et impartial. Et franchement, on l'est le plus souvent. Après, évidemment, on a des préférences. Après, évidemment, il y a des moments où on voit que les défauts des joueurs. Ça, c'est un problème. Ça, j'ai remarqué. C'est-à-dire que même quand on est sincère. Et moi, ça m'arrive encore régulièrement. On est sincère, on pense être objectif, on regarde vraiment les choses de près. Et malgré tout, il y a une espèce de prisme qui fait qu'à un moment, pendant une période, on voit que les défauts d'un joueur. Et parfois, c'est un truc extérieur, quelqu'un, ou parfois lui-même, qui dit « Mais je comprends pas, ça fait plusieurs fois que tu me tailles et tout. Et, écoute, essaie de regarder un peu les matchs différemment, regarde les stats, regarde si, parle avec quelqu'un, tu vois. » Et c'est vrai que parfois, parfois on se dit, bah oui, c'est vrai, je voyais plus que ses défauts alors qu'il a encore des qualités.
Non, mais c'est juste.
Mais je pense que les entraîneurs, c'est comme ça aussi par rapport aux joueurs.
Ouais, non, mais c'est humain parce qu'après, moi, par exemple, j'ai l'impression d'avoir ce syndrome-là avec Pogba. J'ai l'impression que tout le monde en fait.
De voir que ses défauts.
Ouais. Tout le monde en fait un joueur extraordinaire et moi, j'ai l'impression qu'il lâche pas la balle, il veut trop montrer sa technique, etc.
Mais Pogba, c'est facile pour voir que ses défauts, il suffit de le voir jouer. Non, c'est un mot. C'est pour rire, je vais pas dire ça en fait. En vrai, je voulais pas dire ça. Non, je voulais pas dire ça en vrai.
On parlait des différences que tu avais avec les joueurs, où tu donnais l'exemple justement de l'Euro 92. Vraiment, réellement, maintenant, c'est quoi la grosse différence quand tu as un joueur en face à face, dans le comportement?
Non, quand on est en face à face, il n'y a pas de différence. Quand on est un contre un comme ça dans une interview, c'est exactement la même chose. Ils sont sympas, ils donnent un peu d'eux, ils sont respectueux, ils sont intéressants souvent, ils sont... La difficulté, c'est d'arriver à ce moment-là, en fait, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a 25 ans, ce moment-là était facile. Et aujourd'hui, parfois, c'est 3 mois de négo, quoi. C'est 3 mois de négo avec l'agent, avec le club, pour qu'enfin le joueur soit en face et qu'on puisse discuter, quoi. Et souvent, le joueur, il est ravi, après.
Mais est-ce qu'il fait pas trop attention, maintenant, justement, sur l'image, sur ce qu'il va dire, sur comment ça va être interprété, relayé dans les médias?
Si, bien sûr, mais après, c'est le coefficient personnel du mec qui est en face. Et de lui faire parler, de lui faire comprendre qu'il peut parler off. Et que le off sera évidemment pas dans le journal. Bien sûr qu'ils font attention. Mais bien sûr qu'il y a des joueurs extrêmement prudents dont on n'arrive rien vraiment à tirer et qu'on sait qu'il y a des clients magnifiques. Voilà, tout le monde n'est pas égaux.
Mais par exemple, en 96, tu suivais spécifiquement Zidane pour l'équipe, même si il n'est pas considéré justement comme un grand parleur et quelqu'un qui va parler vraiment beaucoup aux médias et se confier. Là, comme ça, de l'extérieur, je pense que tu arrivais à en tirer plus et plus facilement qu'aujourd'hui d'un Griezmann ou d'un Pogba, par exemple.
Je sais pas, j'ai rien fait avec, j'ai encore jamais fait d'interview en tête-à-tête avec Griezmann et Pogba. Mais moi, je pense pas que les joueurs changent dans les générations. C'est leur accès qui devient compliqué, parce qu'avec les agents, avec les clubs, etc. Mais fondamentalement, on retrouve les mêmes avant, quoi. On retrouve les mêmes. Il y a pas, les codes peuvent changer un peu, mais je trouve que les profils psychologiques sont exactement les mêmes.
Et ça marche avec les entraîneurs aussi, ou c'est vraiment que les joueurs qui sont maintenant beaucoup plus difficiles d'accès?
Ça marche avec les entraîneurs. Il y a des entraîneurs auxquels on parle jamais. Moi, l'an passé, pour un bouquin que j'ai fait sur les sélectionneurs de l'équipe de France, j'ai pu parler presque 3 heures avec Laurent Blanc au camp des loges, mais je crois que c'est la seule interview en tête-à-tête qu'il a accordée pendant toute l'année. Et c'était à condition qu'il n'y ait pas une ligne dans le journal. C'était vraiment que pour le livre, que pour l'équipe de France. Donc oui, ils sont très difficiles d'accès aussi aujourd'hui, mais en même temps, on voit qu'eux. C'est-à-dire que, voilà, ils sont sans arrêt en conférence de presse, sans arrêt dans une espèce de parole officielle. Donc pour les voir en tête-à-tête, moi effectivement quand j'ai commencé il y a 20 ans, mais c'est vraiment un discours de vieux con, on avait l'interview in et puis on avait tout le off. Les entraîneurs nous balançaient tout, on rentrait dans leur bureau, on passait notre vie dans leur bureau. Et je trouve que ça c'est un truc que les nouvelles générations ont perdu malheureusement pour eux. Et là ils en sont victimes, hein, beaucoup plus que coupables, c'est qu'ils ont plus cette proximité avec les entraîneurs. Et c'est quand même les entraîneurs qui apprennent le plus de choses sur le foot. C'est quand même eux qui réfléchissent le plus. Moi mon université ça a été discuté dans les bureaux des entraîneurs pendant des années et des années. Aujourd'hui, ça m'arrive plus jamais.
Mais comment on fait alors maintenant pour avoir des infos? Par exemple, sur les transferts, vous sortez des infos, toi t'en as sorti, par exemple.
Très peu. Honnêtement, oui, je peux avoir des infos sur Lyon. Mais les transferts, c'est devenu un truc de fou. Il y a des mecs chez nous, il y a des spécialistes comme Hugo Delon, Bill Gazi, Damien Degore, Vincent Garcia, avant Guillaume Dufy, maintenant il était à la télé. Mais oui, ils passent leur temps au téléphone, mais quand je dis leur temps, c'est pas seulement le temps du mercato, c'est toute l'année. C'est-à-dire qu'ils entretiennent avec les agents ou avec des dirigeants, mais des relations toute l'année pour être efficace pendant le mercato. Et pendant le mercato, c'est tous les jours, au téléphone de 9h du matin à minuit. C'est un boulot de fou. Moi, honnêtement, c'est pas un boulot que je fais. Je pourrais trouver ça sympa, cette espèce de jeu de piste, savoir qui est qui. Donc, de temps en temps, ils m'appellent, tu peux pas essayer de vérifier ci, vérifier ça. Et c'est qui l'étranger qui joue en Italie sur lequel est Lyon? Bon, de temps en temps, j'arrive comme ça à récupérer l'info. Mais c'est pas une gymnastique, c'est pas mon rôle et c'est pas un truc que je fais bien. Eux, je trouve qu'ils le font vraiment bien, mais c'est devenu un truc de fou. Et de toute façon, sur les transferts, honnêtement, je pense qu'il y a 80% des infos viennent des agents. Hein. Ça, c'est comme ça. Ils sont intermédiaires pour beaucoup de choses, mais aussi pour ça.
Mais en général, ils le font pour gonfler un petit peu la valeur d'un joueur ou prendre une petite commission.
Il se trouve qu'en fait, chacun donne plutôt des infos sur les autres que sur soi-même. Donc en fait, voilà, c'est un peu le truc. C'est-à-dire qu'il y a un agent va dire, tiens, j'ai appris que. C'est-à-dire qu'il a su par un club, un dirigeant de club, qu'il y a un autre, etc. Mais les agents, ils protègent les deals un peu qu'ils sont en train de mener, en disant rien, mais en revanche...
Il faut un écran de fumée à côté.
Ils n'ont pas de raison de protéger les deals des autres. Donc s'ils savent quelque chose, ils donnent, bien sûr, ils donnent.
Le petit côté « je t'aime moi non plus » avec Jean-Michel Aulas. Mm-hmm. Parce qu'en gros... Plusieurs fois, vous êtes volé dans les plumes. En 2010, par exemple, quand tu avais parlé de Claude Puel, en partant d'une conférence de presse, il t'insulte d'enfoiré.
Ouais.
Cet été, il y a encore des petites tensions sur... l'été dernier, pardon, des petites tensions sur la Lacazette, parce que toi, dans une interview, tu dis qu'il a été blessé et déçu par Aulas, qui, pour t'y rappeler, avait divulgué le salaire de Lacazette à l'époque. Et lui, le lendemain, dit non, c'est impossible qu'il ait dit blessé par Aulas. En gros, Vincent invente tout et c'est malhonnête.
Mais alors, bon alors, une parenthèse pour ce truc-là. En fait, il avait tort, il avait raison, mais il savait exactement tout. C'est-à-dire que la phrase qu'il me reproche, elle n'était pas dans le papier que j'avais faite. Il se trouve qu'elle était dans le titre de une du journal. Parce que parfois, les titres de une concentrent les idées. Et lui savait que la phrase qui avait concentré l'idée à la une figurait pas in extenso dans le papier. Donc il a dit, ce titre est un mensonge, vous voyez, maintenant vous avez menti. Alors que dans le papier, ça n'y était pas. Mais donc il s'appuie toujours sur un truc vrai pour essayer de discréditer tout le reste. Donc voilà. Mais nos relations, je pense qu'elles sont bonnes, très franchement. C'est-à-dire que dans ta présentation, tu as dit que c'était mon meilleur ennemi, mais franchement, je ne pense pas que ça soit le cas. C'est pas le cas.
Non, mais c'est
comme dans le parrain. C'est du business, c'est pas personnel. C'est du business, c'est pas personnel.
Après, c'est vrai que c'est une bête médiatique et qu'il aime bien faire ça avec beaucoup de gens.
Non, mais surtout, chacun est dans son rôle. Moi, quand chacun est dans son rôle, ça me dérange pas. Très franchement, l'image d'Arles Avignon dont tu parles, quand il se quitte, quand il me dit vous êtes un enfoiré. Faut dire aussi, parce que c'est, je lui avais répondu, les micros n'avaient pas entendu, mais je lui ai balancé une vacherie juste avant. Bref.
Qui était?
Je me rappelle plus. Wow. Voilà. Non, mais je me rappelle plus. Mais j'étais un peu agacé, donc j'avais balancé un truc. Ça me gêne pas. Je trouve pas que ça soit une insulte affreuse de dire vous êtes un enfoiré.
Non.
Ça me dérange pas. Il avait fait pire que ça 30 secondes plus tôt en disant de toute façon on est coté en bourse, mais vous pouvez pas savoir ce que c'est. Ça, c'est une vraie insulte de classe. Ça, c'est insupportable. Ça, oui. Là, je me suis senti insulté. Enfoiré, je me suis pas senti insulté, franchement.
Non, mais c'est une époque révolue.
Parce que moi, je l'ai dit à des joueurs aussi, ça. T'es vraiment un enfoiré.
Ce que je veux dire, c'est qu'un président qui dit enfoiré, moi, dans mon esprit, c'est les Claude Bèze, les Bernard Tapie, enfin, c'est un truc des années 80.
Oui, mais sauf que Bèze et Tapie, ils interdisaient aux mecs de bosser. Avec Olas, ouais. Pour travailler, mais c'est un paradis, c'est facile. Il répond tout le temps, il est toujours d'accord. On peut vérifier toutes les infos, on envoie un texto, il répond, on appelle. Si on appelle Olivier Blanc ou Pierre Bidault, qui sont les deux gars de l'OL qui bossent avec lui, qu'on dit voilà pourquoi il faudrait qu'on laisse 5 minutes parce que ça, ça sera toujours oui. C'est facile de bosser avec lui. On peut en procès avec lui, il va quand même parler. Bèze, il interdisait l'accès au stade. Tapie, c'était pareil, il menaçait physiquement. Voilà, s'il a jamais menacé physiquement personne. C'est assez différent. Donc, quand chacun est dans son rôle, ça ne me dérange pas. Moi, je suis dans mon rôle. De toute façon, avec lui, c'est un coup chaud, un coup froid. C'est la seule manière de gérer ça. On peut pas... je veux dire, être gentil tout le temps avec lui, ça n'a pas de sens. Et puis, je pense qu'il perd tout respect. Et puis, d'être méchant tout le temps, il n'y a pas de raison. C'est juste, pour moi, le plus grand président de l'histoire du foot français sur la durée. Voilà. Donc, les relations avec lui sont des relations professionnelles qui sont parfois cordiales, parfois fraîches, en fonction des intérêts réciproques, mais des intérêts professionnels. Lui, ce qu'il fait monter au créneau, c'est jamais des trucs perso. C'est à ça, et je lui reconnais ça.
C'est toujours sur
ce qu'il met en colère, c'est quand les intérêts du club sont touchés. C'est pas son orgueil personnel.
Mais est-ce que, par exemple, dans le cadre Olas ou peut-être dans un autre, tu t'es jamais dit, avec ce papier... Je vais peut-être pas me faire des ennemis, mais bon, je vais rafraîchir un peu les choses.
Et... Ah mais tout le temps.
Mais cinq, tu fais quand même.
Cinq fois par an, je me dis, oh, demain à 8h, ça y est, j'ai un coup de fil. Évidemment, bien sûr, mais c'est pas gênant. C'est pas gênant.
Tu le fais quand même, t'assumes.
Bien sûr. Oui, ouais, non, mais ça c'est pas un problème.
Et tu travailles pour le quotidien, le seul quotidien sportif en France, et... De l'extérieur, parce que je ne travaille pas au journal de l'équipe, mais si je travaille dans le groupe, c'est un quotidien qui est de plus en plus critiqué. Et c'est la cible de tout et n'importe quoi. On l'a vu cet été avec les couvertures sur Pogba et Griezmann. Comment toi tu le vis en tant que tête d'affiche du foot?
Mais je trouve ça injuste, et même de dire de plus en plus critiqué, finalement, je trouve que c'est presque une facilité de traitement du buzz des réseaux sociaux. Les gens qui ont critiqué l'équipe, à ce moment-là, c'est des gens qui ne le lisaient pas. Alors, globalement.
Juste globalement. Petite parenthèse, je me permets de te couper.
Et oui.
C'est vrai que, étant journaliste sportif, j'ai eu des discussions avec des amis sur, par exemple, la une de Pogba.
Ouais.
Ils s'étaient arrêtés à la une. Ils n'ont jamais lu le papier à l'intérieur.
Évidemment.
Et je leur ai dit après, lisez le papier, et vous verrez que ça ne colle pas vraiment avec la une. Mais c'est l'image qu'au final, on garde les gens. Parce que j'ai eu plusieurs fois ces conversations-là.
Mais ce n'est pas que de l'image, toi. Parce que si c'était que de l'image... Enfin, c'est l'image, mais c'est aussi la manière dont les réseaux sociaux sont vampirisés par certains suiveurs qui orientent le débat. Et là, sur Pogba et sur Griezmann, le débat, il a été orienté. Sur Pogba, il a clairement été orienté. En gros, l'équipe est raciste. Non, mais on serait raciste contre Pogba, mais on n'était pas contre Zidane, on n'était pas contre Henry, on n'était pas contre Vieira. Enfin, c'est complètement stupide. Donc non, c'est quelque chose que je trouve insupportable, parce que ces gens qui nous ont reproché ça ont oublié que le jour de l'Euro, on met trois joueurs à la une, c'est Michel Platini, Zinedine Zidane et Paul Pogba. Franchement, pour un journal qui lui en veut, c'est vrai qu'on a cherché loin. Donc je trouve que les gens lisent pas, et c'est pareil pour Griezmann, on nous a reproché la une, l'inquiétude Griezmann pendant tout l'Euro. Mais c'est du buzz de Twitter, mais sur le fond, ça résiste pas à la lecture. La lecture, c'est que ce jour-là, on a fait des papiers, moi le premier, pour dire c'est pas grave, c'est arrivé à Platini, c'est arrivé à d'autres, c'est que le début de la compétition finira pas comme elle a commencé, ça reste lui le joueur central, il va peut-être finir encore meilleur buteur de l'équipe de France. Il y a pas de... voilà. Mais tout le monde reste sur l'inquiétude Griezmann parce que c'est le truc qui a été relayé
sur
la une, qui a été relayé par Twitter.
Mais personne n'a après un hashtag boycotte l'équipe.
Voilà, exactement. Mais ça, c'est un truc d'une malhonnêteté intellectuelle considérable. C'est une espèce de manœuvre. Ouais, c'est une manœuvre quasi diffamatoire, je trouve, qui est sur Twitter et qui fait un peu désespérer parfois des réseaux sociaux.
Pour le journal au global et tous les gens qui travaillent dedans, ou tu le prends un peu pour toi aussi, vu que t'es le leader de la rubrique foot?
Mais moi, je considère que c'est le journal qui est attaqué. Il n'y a pas eu de personnalisation autour de moi. Autant il y a pu en avoir au moment de Nasri pendant l'Euro 2012. Autant là, c'était pas le cas, donc j'ai pas de raison de le prendre spécialement pour moi. Voilà. Les gens qui lisaient le journal et qui machinaient sur Twitter disaient plutôt que c'était mesuré, que ce qu'on écrivait. En fait, ceux qui lisaient l'équipe et qui s'adressaient à moi sur Twitter, 90%, ils me donnaient raison. Ceux qui nous insultaient et m'insultaient, c'est des gens qui lisaient pas le journal. C'est un peu la complexité du débat à ce moment-là, quoi.
Mais est-ce que l'épisode France 98 aide pas à mettre un petit peu justement dans le viseur l'équipe, puisque on rappelle l'équipe en 98 et avant dit pendant deux bonnes années que en gros l'équipe de Jacquet ira nulle part, que ça joue mal au foot, que c'est pas extraordinaire, ce qui peut se défendre à l'époque. Sauf que au final, malheureusement pour l'équipe de France a gagné, et il y a beaucoup de gens qui ont pris ça en se disant voilà, l'équipe, vous faites les malins. Je me rappelle que sur le Tour de France, il y a gens qui voyaient les voitures cibler l'équipe qui sifflaient.
Oui, je sais. Il a fallu enlever les autocollants cet été-là parce que les gens jetaient des pierres sur les voitures. Mais à l'époque, c'était juste une querelle esthético-esthétique. L'équipe de Jacquet nous ennuie. Pour rester poli, on s'embête et voilà, il ne se passe rien. Et c'était de nature très différente. Et en plus, quelqu'un qui aurait lu l'équipe du 1er juin au 15 juillet aurait rien vu de ce débat-là. C'était un débat qui était extrêmement intérieur. C'était une rancune qui remontait bien avant. Il n'y a pas de journalisme possible si on considère que la victoire donne tort ou donne raison. Si la victoire donne raison ou donne tort à quelqu'un qui a écrit avant, ça n'a plus d'intérêt d'écrire et il n'y a plus de débat possible. Soit le sport est une matière qui est assez noble et assez mature pour qu'on puisse avoir un point de vue avant et considérer que le résultat ne détermine pas qui a tort ou a raison, soit effectivement, si c'est que la religion du résultat, ça n'a aucun intérêt. Quel intérêt d'avoir un raisonnement si seul le résultat compte ? Heureusement qu'on peut avoir un raisonnement, heureusement qu'on peut avoir un critère esthétique, heureusement qu'on peut estimer que... Voilà, j'ai le droit de dire bravo, l'équipe de France est championne du monde en 98, mais dommage que la Ligue 1 ait joué comme l'équipe de France de Jacquet pendant 20 ans derrière. Ça fait pas encore 20 ans, c'est mais ça les fera.
Ouais, tu peux continuer encore
donc,
10 ans.
Voilà, j'ai le droit de dire ça. J'ai le droit de dire, on s'est fait chier pendant 2 ans et malheureusement, les autres vont vouloir l'imiter, c'est terrible. Mais ils sont champions du monde, bravo, et c'était très bien. Et l'équipe en a profité. Puis l'atteinte à l'image de l'équipe, mais elle a été marginale. On n'a jamais vendu autant de journaux que dans les 2 années qui ont suivi. L'année 2000, on était à plus de 400 000 exemplaires vendus par jour.
Mais est-ce que cet épisode France 98 vous a pas, entre guillemets, forcé à ralentir un petit peu la cadence sur 2002 et 2004, par exemple? On se disait, il y a la jurisprudence Jacquet, on va faire un petit peu attention quand même.
La jurisprudence Jacquet, elle a compté pour beaucoup de la presse française en général. Elle a compté, par exemple, chez nous, en interne, je pense que sur la Coupe du Monde 99 de rugby, elle a compté. C'est-à-dire qu'avant la Coupe du Monde 99, la France a pris 52 points à Wellington, je crois, contre les Blacks, 4-5 mois avant. Et là, plutôt que balancer sur Villepreux-Scrella, je pense que ça faisait un an seulement que la Coupe du Monde était passée, on s'est dit, bon, allez, on verra. Et là, l'équipe de France est allée en finale. Mais d'une manière générale, il faut que le débat reste possible. Et ce que j'apprécie aujourd'hui, dans le fait que le débat soit partout, qu'il y ait sans arrêt des talks, qu'il y ait sans arrêt des consultants, qu'il y ait sans arrêt et que les réseaux sociaux soient puissants, c'est qu'on ne peut plus éteindre le débat. On a le droit, sans que ça soit un problème, d'être contre une équipe qui gagne.
Retour dans le temps, parce qu'en 2012, donc pendant l'Euro, Samir Nasri marque contre l'Angleterre. Et il adresse, enfin, il regarde la tribune de presse avec un doigt sur la bouche, qui apparemment t'est adressé.
C'est ce qu'il a dit après, tout de suite.
Pourquoi ?
Parce qu'il me reprochait un papier écrit 8 jours plus tôt par quelqu'un d'autre. C'est pas moi qui l'avais écrit, c'était un papier sur son transfert, pour dire que Manchester City voulait mettre sur la liste des transferts, etc. C'est pas moi qui ai écrit, je m'occupe pas des transferts. Alors c'est vrai qu'on avait des relations assez fraîches, parce que moi je connais depuis longtemps, je l'ai bien aimé jeune, je l'ai moins aimé après, je trouve que c'était quelqu'un de très intelligent, mais qu'il a voulu servir de son intelligence pour manipuler plutôt que pour fédérer, et c'est dommage parce qu'il avait, il avait tout pour être un vrai leader d'équipe s'il s'était intéressé à l'équipe plutôt qu'à lui-même. Il a préféré manipuler plutôt que fédérer, c'est ce qu'il a perdu. Mais ce jour-là, moi je l'ai défendu, je ne vais jamais reprocher de faire ce geste-là. Je ne suis pas reproché. J'ai toujours considéré que de répondre sur le terrain et de marquer, c'était la seule réponse possible des champions. Moi, je l'ai défendu ce jour-là. Son geste ne m'a pas choqué. Ce qui m'a choqué, c'est qu'après, dans un couloir de vestiaire, il puisse insulter un confrère. Bon, qu'il avait peut-être un peu cherché, on peut toujours discuter. Moi, le doigt sur la bouche après avoir marqué. Alors là, à l'équipe, on appelle ça l'effet Dupont. Pourquoi ? C'est vieux comme tout, parce que Paul Dupont est un journaliste d'athlétisme et il traitait Alain Mimoun, le champion olympique du marathon 1956. Et un jour, Mimoun arrive pour faire un cross et dans le journal, le matin, Paul Dupont écrit « D'après nos informations, Alain Mimoun n'est pas très entraîné, il n'a pas été sérieux ces derniers temps, il n'a aucune chance de gagner. » Mimoun vexé, il court comme un dératé, il passe avec 2 minutes d'avance et en franchissant la ligne, il crie « Dupont est un con ! Dupont est un con !» Donc voilà, on appelle ça l'effet Dupont.
Mais ça ne te gêne pas qu'il fasse un truc contre toi, qui est pas de toi?
Non, parce que du coup, au contraire, enfin non, en plus, voilà, il me reproche un truc que j'ai pas fait et moi je le défends pour un truc qu'il a fait.
Que justement,
donc, je trouve ça très bien.
De l'extérieur, le premier truc qu'on a vu, c'est à chaque fois, c'est voilà, Vincent Duluc visé par Samir Nasri.
Mais je pense qu'aujourd'hui, sur Twitter encore, si on tape Duluc, on trouve Nasri, quoi.
Ouais,
mais je trouve ça ridicule. Mais oui. Qu'est-ce que j'y peux? À part juste que ça prouve que ça ressemble à rien, que c'est n'importe quoi. Voilà, c'est pas très grave. Très franchement, ça me gêne pas du tout. Ça me gêne pas d'être au milieu des trucs, en fait. Surtout quand c'est injuste. Ça me gêne plus quand c'est justifié. C'est-à-dire, qu'on me reproche un truc justifié, ça me dérange. Vraiment. Mais qu'on me reproche un truc inventé qui me concerne pas, au contraire, c'est pas grave, ça m'empêche pas de dormir. D'avoir fait une connerie, ouais, ça peut m'empêcher de dormir. Là, franchement, non.
Prends toujours polémique les unes de l'équipe. En 2016, est-ce que tu trouves ça injuste qu'on critique l'équipe d'avoir sorti cette une où il y a la fameuse insulte d'Anelka à Domenech? Parce qu'on a souvent dit « l'équipe doit pas sortir ça en pleine Coupe du Monde, c'est limite un acte de haute trahison que de faire ça ».
Je suis pas d'accord sur l'acte de haute trahison, parce que c'est un truc qui a un sens, parce qu'il y avait l'équipe de France était en pleine déliquescence, et ça résumait beaucoup de choses, ou ça imageait beaucoup de choses. Mais tu prends, on a à peu près 250 journalistes à l'équipe, il y a 250 perceptions différentes de cette une-là. Est-ce qu'il fallait la faire? Est-ce qu'il ne fallait pas la faire? Voilà, c'est compliqué. On a tous notre sensibilité par rapport à cette une. C'est compliqué. Moi, j'ai la mienne. Voilà, je suis sans doute celui qui l'a la plus défendue publiquement, puisque c'est peut-être un des ceux qui est le plus exposé. Donc voilà, je l'ai défendue. Je continuerai de la défendre. Je l'aurais sans doute pas faite comme ça. Mais elle a un sens. Elle a un sens.
Mais c'est quoi l'histoire de cette une? C'est un joueur qui vous appelle et qui vous dit là vraiment le groupe est foutu.
Tu vas pas faire ton Patrice Révra dire c'est qui la taupe.
J'ai pas demandé qui c'était.
C'est ridicule. C'est comme s'il y avait une taupe et comme s'il y avait une source. Ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. Et c'est jamais un joueur qui appelle. Ça n'arrive jamais non plus. Simplement, ce jour-là, après le deuxième match, qui était perdu contre le Mexique. Voilà, Apollo Gvané, dans le hall de l'aéroport, quelqu'un nous dit « il s'est passé un truc à la mi-temps, il y a eu un incident entre Anelka et Domenech. » Voilà. Le lendemain, franchement, on vérifie, mais vérifier, c'est pas chercher la taupe. De toute façon, il y avait à peu près 40 personnes dans le vestiaire. Chacune de ces 40 personnes en a parlé à 4 en secret. Les 4 à qui on a parlé en secret, on en parlait chacune en secret à 4 autres. Ce qui fait qu'au bout de 5 ou 6 heures, d'une dizaine d'heures, il y a à peu près 640 personnes qui devaient être au courant. Si nous, à l'équipe, alors qu'on était 7 sur place, on n'est pas foutu d'avoir 5 ou 6 de ces 640 personnes, on est vraiment des baltringues.
Ce que je te demande, c'est pas le nom de la personne.
Non, je veux dire, elle n'existe pas.
Mais c'est pas ça.
C'est même pas que je veux pas la donner, c'est qu'elle n'existe pas, en fait.
Mais c'est pas la question. C'était savoir est-ce que c'est venu d'un joueur, ou deux joueurs, ou deux sources différentes, ou est-ce que c'est vous qui êtes allé chercher en se disant, voilà, il y a quelque chose qui ne marche pas dans cette équipe.
On nous a dit, non, mais je te raconte, il t'a répondu. On nous a dit à l'aéroport, tiens, il s'est passé un truc à la mi-temps entre Anelka et Domenech. Et c'est ça qu'on a creusé après, voilà, c'est tout. C'est ça le mécanisme. C'est ça le mécanisme.
Pas demander qui c'était, etc. Donc pour parler foot anglais, dont tu es un grand fan, tu le disais tout à l'heure, tu as été voir Arsenal-Wolverhampton à PAC 62, c'est ça ?
72.
72, pardon.
Je suis pas si vieux que ça quand même.
62, c'est vrai que t'es un petit peu jeune. Tu vas à chaque Boxing Day voir les matchs. Pourquoi le foot anglais ? C'est quoi que t'aimes bien là-bas ? Les contrôles du tibia, les fish and chips, les tacles au niveau des gencives ?
J'aime tout. On trouve plus rien de tout ça. C'est fini, c'est fini. Il y a plus de tacles au niveau des gencives. Le fish and chip, franchement, il vaut mieux pas essayer. Alors que j'adorais ça. Je revois encore mes premiers fish and chip vinaigrés là comme ça dans les papiers journaux avec le papier qui venait de transparent. C'était merveilleux. Aujourd'hui, ça s'est perdu. Tout se perd. Non. Moi, ce que j'aime, c'est l'atmosphère. Voilà. Mais l'atmosphère en général, c'est indéfinissable. J'aime aller au stade en Angleterre. J'aime la relation que les supporters ont au club. J'aime la manière dont les journalistes travaillent, j'aime la manière dont la presse est considérée par les clubs, j'aime tout ça. C'est pas forcément rationnel, mais en tout cas, c'est affectif.
Et puisque tu parles d'ambiance, j'ai été à l'Emirates il y a 2 ans, voir un match, très franchement, sur l'ambiance.
J'ai parlé d'atmosphère, j'ai pas parlé de l'ambiance, c'est pas pareil. Il y a une petite nuance entre l'atmosphère et l'ambiance. Et évidemment que l'ambiance, elle est en première ligue, elle est surfaite. Ça n'a rien à voir avec ce que c'était avant. Pour trouver de l'ambiance en première ligue, il faut tomber sur un grand match à Liverpool, un match incroyable à Chelsea, il faut aller à Sunderland, il faut, voilà, ou un derby à Old Trafford, etc. Mais non, évidemment que ça se perd. Mais l'atmosphère, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que même quand il n'y a pas d'ambiance, j'aime bien aller à l'Emirates, même si c'est, une bibliothèque. J'aime quand même y aller.
Mais est-ce que le meilleur atout de la première ligue, c'est justement tout l'enrobage qu'il a, parce que c'est bien produit, les pelouses sont belles, les stades sont beaux, il y a des stars, il y en a plus vraiment réellement, il y en a quelques-unes mais pas,
il y en a plus vraiment. Où est-ce qu'il y en a plus à part en Espagne? Où est-ce qu'il y en a plus
en Espagne?
ça fait pas
oui, mais parce qu'à chaque fois on dit
en Espagne c'est juste parce qu'il y a Messi, Ronaldo et Suarez qui était en Angleterre avant. Et Ronaldo, il est en Angleterre avant.
Il y a Neymar, il y a Modric, il y a Iniesta,
Modric, c'est pas plus fort que ceux qui jouent en Angleterre.
Fellaini,
évidemment. Tout le monde est plus fort que Fellaini.
Mais Fellaini, écoute,
non, mais t'es mauvaise foi.
Non, parce que non, sincèrement, le foot anglais,
c'est pas Fellaini qu'il faut comparer à Pogba
ou Michael Carrick, alors voilà.
Non mais évidemment, tu compares les mecs qui jouent pas, les tâcherons.
Non mais maintenant, mais à l'époque, il y a 4 ans, 5 ans, Michael Carrick, c'est un pion essentiel de Manchester avec Ferguson.
Mais Michael Carrick, il a gagné la Ligue des Champions. À l'époque, il a gagné la Ligue des Champions contre des clubs espagnols. Tu peux pas, voilà, c'est pas.
Et donc je peux sortir des joueurs obscurs.
Non, c'est pas. Je trouve que c'est pas, voilà, c'est pas un argument. C'est pas un argument. Alors, les meilleurs joueurs du monde jouent en Espagne, mais il y a des très grands joueurs qui jouent en Angleterre.
Je dis pas qu'il y en a pas. Ce que je veux dire, c'est que dans les très très grosses stars, maintenant, elle commence à se diriger plus vers l'Espagne que vers l'Angleterre. Pourtant, et malgré les résultats dans les championnats européens ou avec l'équipe nationale très mitigée de
Elle se dirige vers deux clubs espagnols dans un championnat qui ne mutualise pas les droits télé.
Ça, on est d'accord.
Ça fait une grosse différence. Et c'est dans deux clubs. En Angleterre, c'est dans 5-6 clubs que se répartissent les grands joueurs. En Italie, il n'y en a plus nulle part, à part la Juve. Ouais. Vaguement à la Juve. Un peu à Naples, mais des joueurs de deuxième niveau. Donc voilà, en Angleterre, ce qui est intéressant, c'est cette densité-là. C'est qu'il y a 5 ou 6 clubs qui sont à égalité. C'est pas le cas en Espagne. Ils sont 3. Allez, ils sont 3.
4.
C'est qui le 4e?
Maintenant, il y a Séville qui est quand même pas mal.
Mais ils font quoi en Ligue des Champions, Séville?
Ils font rien.
Ils ont fait quoi? Rien.
La Ligue Europa.
En Ligue des Champions, ils font quoi?
Et en Angleterre, les clubs anglais, ils font quoi en Ligue
Europa? Non, mais tu peux pas me dire que la Ligue Europa, c'est important que Séville la gagne, alors que quand c'est des Russes, tout le monde s'en fout.
Je dis pas que c'est important, mais ce que je veux dire, c'est que à chaque fois, on dit le champion anglais, c'est le meilleur du monde.
Non. Mais au final, non. Moi, je dis pas que c'est le meilleur du monde. Du monde. Le meilleur du monde, c'est le championnat espagnol. Mais le championnat anglais, c'est juste celui que je préfère. Mais c'est pas le meilleur du monde.
C'est plus homogène, je pense. Non, le championnat anglais.
Mais moi, je cherche même pas à dire que c'est le meilleur du monde ou c'est juste mon préféré. Mais c'est pas le meilleur du monde. Le meilleur du monde, évidemment, que c'est l'Espagne, bien sûr.
Si tu peux ramener un truc de l'Angleterre dans notre bonne vieille Ligue 1,
la manière de filmer, la manière d'arbitrer.
Donc tu préfères quand même qu'il y ait des tampons et des petits contacts, sans parler de tacles aux gencives.
Bien sûr. Non, mais la manière d'arbitrer, c'est une sorte de rythme, voilà. Mais la manière d'arbitrer, c'est aussi que les supporters permettent pas aux joueurs étrangers qui sont en Angleterre de leur latinerie. Quelqu'un qui commence à plonger, ça fait une polémique pendant 15 jours et le mec est fini, quoi. Alors qu'en Espagne et en Italie, quelqu'un qui plonge pas, ça fait une polémique.
Non, non, pas en Espagne. En Italie, si tu veux. L'Espagne, moins, quand même.
Ouais, t'as raison. Quand Atlético mène à zéro, qu'ils mettent un quart d'heure, tu veux qu'on revoie les matchs ensemble. Combien de temps de jeu effectif quand Atlético mène à zéro, qu'il reste un quart d'heure?
Mais il se jette.
Chaque touche dure 35 secondes, chaque coup franc se joue en 40 secondes, le gardien il se roule pendant 40
tout
secondes.
Tout le monde applaudit pas en Espagne.
Non.
Parce que l'Atlético, justement, en Espagne, c'est considéré comme une équipe qui joue pas au foot et ouais. Très restrictive. Parce qu'en Espagne, il y a bien un truc qu'on a mis en Espagne, c'est justement le beau jeu, tiki-taka, ouais. Les passes, des deux fois qui servent strictement à rien. Djalminha,
oui, oui.
Là-bas, c'était une star. Il a jamais rien fait à part des sombreros et des trucs bizarres. Bon, on parlait de la suite de ta carrière pour terminer. Tu participes. Alors, par exemple, on en parlait tout à l'heure. Alors, je veux que tu me répondes là-dessus. À l'équipe du soir, moi, j'ai l'impression, en tant que spectateur, de voir que dans l'équipe du soir, je ne dis pas que tu le fais. Je parle du général. On est plus souvent à la recherche du bon mot que de l'analyse vraiment constructive et poussée.
Le problème, c'est qu'au début, on se dit, il ne faut pas que je dise quelque chose que je n'écrirai pas. Il ne faut pas que je dise quelque chose que je n'écrirai pas. Et puis, ça ne marche jamais. Il n'y a rien à faire, il y a toujours un moment où on se trouve comme si on est avec ses potes et qu'il y en a un
oui,
qui dit un truc
l'ambiance.
On se dit je viens de... ah, et voilà, et je dis ah non je l'ai dit, ah mince c'est trop tard, c'est fini je l'ai dit. Donc oui, forcément le bon mot compte, mais parce que le bon mot ça rythme, c'est aussi ce qui fait partie de l'émission. On peut pas être, franchement on peut pas tenir à mon avis une audience de 22h30 à minuit si on n'est que sérieux. C'est impossible.
Non.
Il faut que ça soit aussi une émission de divertissement.
Bien sûr.
Évidemment, il faut que ce soit le plus sérieux possible. Et ça reste un débat. Et pour qu'il y ait un débat, il ne faut pas qu'il y ait que des choses intelligentes qui se disent.
Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que justement, l'idée, oui, c'est d'avoir un petit peu d'humour, etc. C'est juste ouais. Que de temps en temps, j'ai l'impression que ça tend plus vers le côté franche camaraderie, on rigole, on s'amuse.
Mais c'est ce qui plaît aux gens. Moi, honnêtement, quand je parle avec des gens et tout le monde nous en parle de cette émission. Tu prends le TGV, les contrôleurs viennent s'asseoir à côté de toi, tu peux pas dormir. Bref. Pourquoi vous parlez jamais du RC Racing Club de Lens? Ouais, bref. Et bon, c'est pas vrai, en général, quand je vais à Lyon, ils sont tous stéphanois, donc ils me parlent que des verts. Mais ce que je veux dire, tout le monde m'en parle, et en général, tout le monde dit, oh putain, quand même, vous rigolez bien dans cette émission, c'est quand même bien sympa, etc. et tout. C'est vrai que personne ne dit, ah, j'ai bien aimé ce que vous avez dit sur le 4-2-3-1 renversé l'autre jour, quoi.
Juste pour ton cas personnel, tu vois comment la suite de ta carrière? Tu penses mourir sur scène, dans le stade?
comme disait Thierry et Roland, le plus tard possible. Non, j'en sais rien. Le problème, très franchement, c'est que quand on est à l'équipe dans cette position-là, ben, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup mieux, quoi.
On dit souvent de toi que tu es une plume, et je l'ai dit dans la présentation, tu as écrit ou co-écrit une vingtaine de livres. Est-ce que t'as pas le sentiment et l'impression de gâcher ton talent en parlant que de sport uniquement? Parce que justement, je fais exprès, parce que dans les écoles de journalisme, en général, comme tu le disais en PQR aussi, le journaliste sportif, c'est bah voilà, le branleur qui veut regarder que du sport et se balader toute la journée en short claquette, alors que le journaliste politique, c'est l'élite du truc.
Ouais, enfin, une vie de branleur, c'est beaucoup de travail quand même.
C'est vrai,
c'est des sacrifices, hein. Faut pas croire. Non, j'ai forcément envie d'écrire sur autre chose que du foot. J'ai fait donc deux livres un peu vaguement littéraires dans la collection Bleu à Stock, qui est une collection littéraire, donc le cinquième Beatles sur Georges Best et un printemps 76.
Pour lequel t'as gagné le prix Antoine Blondin.
Voilà, et du coup, forcément, j'ai le truc qui se pose à moi et qu'il faut que je tranche sous peu, c'est... Est-ce que je reste dans le est-ce que le décor du prochain c'est encore le foot? Est-ce que le décor du prochain ça n'a rien à voir? Voilà. Oui, j'ai peut-être un basculement à faire là-dessus, mais c'est un aspect assez pas forcément, mais c'est un aspect assez marginal de mon activité quand même malgré tout. Moi j'aime cette vie-là. C'est compliqué évidemment. C'est difficile de changer parce que c'est vrai que je suis à un point de la carrière où c'est à la fois difficile de changer et difficile de pas changer.
Bah Vincent Duluc, merci beaucoup.
Merci.
Ça a été un plaisir.
Merci à toi.
Très intéressant. Et merci encore.
À bien. À vite.
Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Alors je vais faire mon Bernard de la Villardière. L'émission d'aujourd'hui est produite par Julien Neuville, montée par Zaki Alal, le générique est de Aurore Maillot-Meyer et la musique originale de Mehari, un énième membre de la mafia toulousaine. Exceptionnellement, le prochain épisode sortira la semaine prochaine, donc jeudi 8 décembre, et après ça, on prend notre rythme de croisière et ce sera toutes les deux semaines. Avant de vous laisser partir, si ce n'est pas déjà fait, ce qui est très grave, mais bon, je vais vous laisser une deuxième chance, abonnez-vous à Banquette pour recevoir automatiquement les nouveaux épisodes.
Si vous savez pas très bien comment on fait ça, allez faire un tour sur nouvellesécoutes.fr, il y a toutes les informations. Et je le rappelle, Nouvelles Écoutes au pluriel. Un petit truc qui nous aide beaucoup aussi pour atteindre d'autres auditeurs, c'est la note que vous pouvez nous donner sur iTunes. Bon, de préférence 5 étoiles les copains. Attention, j'y veille. Allez, je vous laisse. Allez Monaco et Daguemounegou.